Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Entre crise ouverte avec les États-Unis et gestion chaotique de la crise sanitaire, l'actualité en Iran aura été particulièrement mouvementée en 2020. D'autant que l'affaire de l'avion civil ukrainien, abattu en janvier, n'est pas encore refermée et que la crise liée au nucléaire est toujours en cours. Mais ce qui inquiète certains observateurs, c'est le rapprochement opéré avec la Chine, comme le souligne la sociologue et politologue franco-iranienne Manaz Shirali, notre invitée ce dimanche. Une émission réalisée par Mathias Golshani à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Manaz Shirali.
Bonjour Éric Bataillon.
Sociologue politique, enseignante à Sciences Po à Paris, vous êtes l'autrice de plusieurs livres sur l'Iran, dont Le mystère de l'Iran contemporain, c'était publié en anglais en 2014 à Londres et aux États-Unis. Manaz Shirali, l'année 2020 a été particulièrement mouvementée pour les Iraniens. Cela a commencé par une crise ouverte avec les États-Unis à propos de l'Irak.
Et ça a commencé en 3 janvier, si je me rappelle bien, par l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani, ce qui a provoqué l'enthousiasme général en Iran en pour et en contre. Une partie était secouée par rapport à l'événement, l'autre partie était secouée autrement. Mais en tout cas, c'était l'événement, à mon avis, à mon sens, qui a profondément marqué l'année 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, en début janvier? C'est que après les répressions massives, après la mort de 1500 Iraniens qui ont péri dans les rues, tout simplement parce qu'ils ont contesté l'augmentation de 300% du prix de pétrole, de l'essence, du jour au lendemain, ce qui est quand même la chose la plus naturelle pour les citoyens d'un pays qui n'accepte pas ce genre de décision arbitraire. C'est après ce massacre que l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani a provoqué quand même une joie, une jubilation d'une partie de la population, de telle sorte que le lendemain de l'annonce de la mort, les pâtisseries en Iran ont été prises d'assaut. C'est une tradition iranienne, vous savez, quand il y a la joie, on distribue de la pâtisserie, on mange de la pâtisserie. Il n'y avait plus de gâteaux dans les pâtisseries. C'était un signe quand même très très fort. Ça montrait comment les Iraniens ont réagi à l'annonce de la nouvelle.
Alors lorsqu'on regarde de plus près cette crise et ces combats, après l'assassinat du général Soleimani, on constate qu'il n'y a finalement eu que peu de morts de part et d'autre. Comment expliquer le fait que ce combat ait été finalement un combat à fleur et mouchetée entre l'Iran et les États-Unis?
En fait, les dirigeants de la République islamique, à la suite de l'assassinat de Qassem Soleimani, étaient dans une situation très peu confortable. D'un côté, vis-à-vis de leurs sympathisants intérieurs, nationaux, il fallait qu'ils vengent le sang de Soleimani, d'accord ? Pour satisfaire la soif de vengeance de leurs sympathisants. De l'autre côté, on sait très bien, la République islamique n'est pas de taille pour tenir tête. Et les dirigeants iraniens le savent mieux que n'importe qui. D'accord. Et donc, ils étaient vraiment dans une très mauvaise situation. C'est pourquoi la thèse de la chute intentionnelle de Boeing ukrainien tient debout dans cette histoire. Parce qu'on est au lendemain de l'assassinat de Qassem Soleimani. Les dirigeants iraniens ne peuvent pas venger leur général, leur chef de guerre. En même temps, ils devaient faire quelque chose. Donc, c'est pour détourner l'attention publique. Ils ont en fait ciblé, ils ont visé l'avion ukrainien pour détourner les intentions.
Justement, dans ce contexte que l'on décrit actuellement, la destruction de cet avion civil ukrainien, c'était le 8 janvier 2020, donc 5 jours après l'assassinat de Qassem Soleimani. 176 personnes à bord, en majorité iraniennes et canadiennes. Comment les autorités iraniennes ont-elles géré cette crise, selon vous ?
Alors, comme d'habitude, par la dissimulation, par le mensonge, par toutes sortes de hypocrisie, Et donc, le lendemain de la chute de l'avion, ils ont envoyé des bulldozers géantes sur le site et ils ont éliminé toutes les preuves. Ils ont interdit aux observateurs internationaux pour enquêter, pour venir en Iran et enquêter. Ils n'ont pas envoyé la boîte noire pendant plusieurs mois. Au début, ils ont dit que la boîte noire est trop abîmée. Et après, alors, toute une série de cacophonies autour. Éric Bataillon, ce qui est vécu pour les Iraniens comme une insulte à leur intelligence. Et c'est là, depuis que je lis dans les commentaires, dans les paroles, j'entends de la bouche des Iraniens qu'ils disent « nous sommes un pays sous occupation, ce ne sont pas des dirigeants, ce sont les occupants de notre pays qui ne se sentent pas responsables vis-à-vis de nous pour nous répondre ».
Et cette population iranienne, elle a l'impression aussi que dans le cadre de la pandémie, la gestion a été hasardeuse pour le moins.
La population iranienne, par rapport à ce que j'ai pu comprendre de leurs paroles, de leur bouche, par rapport aux interviews que je fais systématiquement, je vois que, en fait, la première réaction des Iraniens par rapport à la pandémie de Covid-19, c'est que personne ne s'est occupé de nous. Et eux, ils disent, c'est à nous de prendre soin de nous. Et ils sont obligés de se protéger individuellement. Et l'Iran, je le dis souvent, est le seul pays au monde où le nombre des victimes est plus important parmi les jeunes que parmi les plus âgés. Parce que les jeunes sont obligés de sortir et de prendre le métro, de travailler, alors que les plus âgés peuvent se confiner. Et du coup, le coronavirus a fait des ravages parmi les jeunes. Il y a des victimes entre 20 et 30 ans. Éric Bataillon, vous le savez mieux que moi. En France, 9 victimes sur 10 ont plus de 70 ans. Donc, vous voyez à quel point le cas iranien est anecdotique.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI et nous recevons la sociologue iranienne Marnaz Shirali. On l'a dit, l'Iran a été secoué par d'importantes manifestations fin 2019, début 2020, en raison de la hausse spectaculaire du prix de l'essence. L'économie iranienne s'est-elle redressée pendant l'année ?
Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'économie en Iran. Les Iraniens sont littéralement affamés, rien ne va plus. La monnaie iranienne a tellement perdu sa valeur que juste après la monnaie vénézuélienne, la monnaie iranienne est la deuxième qui a moins de valeur.
Est-ce l'effet des sanctions américaines ?
Et disons que les sanctions américaines ont accéléré une chute inévitable. Déjà, il y a 42 ans, quand Khomeini est venu en Iran, il a annoncé que l'économie est pour les idiots. Bon, il n'a pas employé le mot idiot, il a employé le mot âne. Il dit l'économie est pour les ânes. Alors, vous voyez que 42 ans après, l'économie est tombée dans quelle situation ?
Mais est-ce que aujourd'hui cette chute assez spectaculaire d'ailleurs de l'économie iranienne en 2019 et 2020, est-ce qu'elle est enrayée ou est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle perdure ? Quelles sont les informations que vous avez ?
Il n'y a aucune raison pour qu'elle se redresse puisque les sanctions sont là. La kleptocratie iranienne est parfaitement en place. Les ayatollahs sont plus avides à vider la poche des Iraniens qu'avant. Mais l'événement le plus l'un des événements les plus marquants, Éric Bataillon, de l'année 2020, c'était l'accord mystérieux entre Téhéran et Pékin. L'économie iranienne est tellement malade, moribonde ou plutôt inexistante que les dirigeants iraniens se sont jetés carrément dans les bras des Chinois. Ils ont signé un contrat mystérieux pour que les Chinois viennent en Iran et qu'ils investissent en Iran pour les sauver.
Alors justement, à propos de la Chine vient d'acheter des îles qui sont au sud du détroit d'Ormuz, c'est cela, pour contrôler cet espace-là ?
On sait que déjà, la République islamique avait loué la mer d'Oman. Et les chalutiers chinois venaient là-bas, ils ont, avec les bateaux vacuum, avec tout balayé sur le sol de la mer, de telle sorte que les pêcheurs iraniens n'avaient plus du tout de quoi manger. Ils pouvaient rien trouver. Ils ont vidé la mer. Et là, on a entendu que dans cet accord mystérieux avec Pékin, ils ont vendu les îles de la côte du sud de l'Iran, les îles du golfe Persique et les îles qui se trouvent au bord de la mer d'Oman. Mais ce n'est pas que ça. C'est bien plus que les îles du sud, de la côte du sud. C'est bien plus grave que ça. C'est vraiment une colonisation de l'Iran par les Chinois. Et je regrette que les experts iraniens n'en parlent pas assez. Ils sous-estiment. Et ce qui m'a vraiment bouleversée en année 2020, c'était ça. Quand je parlais avec mes collègues, ils me disaient que maintenant, les Chinois ne vont jamais parier sur un cheval perdu. Mais si, justement, ce que les Chinois sont en train de faire, et j'ai l'impression que l'Iran est perdu. L'Iran est tombé dans les mains des Chinois. Finalement, les sanctions américaines, les pressions de Donald Trump n'ont pas abouti à la chute du régime. Par contre, ils ont chuté la République islamique dans les bras des Chinois. Et on se demande avec beaucoup de crainte ce que ça va donner, cet accord mystérieux avec la Chine dont on parle si peu. Ça reste toujours très mystérieux, mais on sait que, par exemple, il y a des fermes de Bitcoin partout en Iran qui sont en train de repousser par terre, qui mangent toute l'énergie de ce pays, ce sont énergivores, et que là, par exemple, on est en plein hiver et la capitale iranienne, Téhéran, n'a pas d'électricité.
Oui, c'est l'énergie électrique qui est pompée par ces fermes de Bitcoin. Sur le dossier nucléaire, Manachir Ali, l'actualité a été forte en 2020 avec l'assassinat de l'un des principaux responsables du programme scientifique iranien. Le Parlement iranien a d'ailleurs voté des représailles.
D'abord, Éric Bataillon, je vous félicite. Vous n'avez pas prononcé le mot qui me donne de l'urticaire, le mot de scientifique. Merci beaucoup. Vous n'avez pas dit Fakhrizadeh, le scientifique iranien, parce que il est aussi scientifique que l'autre était général. C'est-à-dire, ce monsieur, il n'a aucun diplôme d'une université scientifique. Il a suivi quelques formations en Chine pour comprendre ce que c'est le nucléaire et il était un dealer, ça veut dire il achetait, il vendait les matériaux de nucléaire. Voilà.
Alors concernant justement les sanctions qui ont été votées par le Parlement dans le cadre du nucléaire.
Ils ont décidé de reprendre, c'est la reprise des activités nucléaires qui n'a jamais rien apporté. Ce sont des activités qui n'ont jamais rien apporté pour
nucléaire,
les Iraniens.
Le nucléaire militaire.
En fait, ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais avoir la technicité nécessaire pour produire quoi que ce soit. Par contre, c'est devenu une arme contre les Occidentaux. C'est une arme de pression qu'ils utilisent pour obliger les Occidentaux à les écouter. C'est une arme de manipulation des hommes politiques et des femmes politiques occidentaux.
Et puis surtout, l'autre élément, c'est que les inspecteurs de l'agence internationale basée à Vienne, en Autriche, ne sont plus autorisés à venir inspecter les sites iraniens du nucléaire.
En fait, c'est une hypothèse. On dit que c'est parce qu'ils veulent montrer le bras de fer à Biden qui vient d'arriver, qui vient de s'installer pour dire « Regardez à quel point nous sommes forts, on fait ce qu'on veut ». Et donc, comme je le dis, ils sont cohérents à eux-mêmes. La République islamique n'a jamais été une grande puissance, mais ils sont en train de montrer à la planète entière à quel point leur capacité de nuisance est grande.
Justement, le nouveau président Joe Biden a annulé jeudi les précédentes sanctions décidées par Donald Trump et déclaré qu'il était favorable à la relance de l'accord de 2015. Cette arrivée peut-elle avoir une certaine influence sur ces deux dossiers de l'économie et du nucléaire?
Certainement. On va voir ce que ça va donner. Les Iraniens ont une peur bleue que George Biden se comporte comme Obama, comme son prédécesseur, et qu'il ouvre la porte aux ayatollahs, qu'il leur offre de l'argent, parce que Obama a donné 400 millions de dollars l'argent liquide aux ayatollahs. Pas un centime n'a été investi en Iran. tout était parti dans la poche des mercenaires, des paramilitaires de la région, de Hashd al-Shaabi jusqu'au Hezbollah, de Zeinabiyoun en Irak, et en, voilà, partout. Mais jamais, en fait, sur la table des Iraniens. Les Iraniens n'ont pas vu la couleur. Donc, aujourd'hui, on a vraiment peur que Biden se comporte comme Obama. On espère qu'il y a un effet Trump. Un effet Trump, c'est-à-dire qu'il ne donne pas autant de privilèges, autant de possibilités aux ayatollahs comme l'a fait Obama, qu'il, l'effet de Trump fonctionne, qu'il continue un peu de bras de fer avec République islamique. Et je tiens juste pour terminer à vous dire que malgré toutes les sanctions, malgré tous les malheurs que les Iraniens ont subis pendant la présidence de Donald Trump reste paradoxalement le président le plus populaire des États-Unis aux yeux des jeunes Iraniens et l'homme politique occidental le plus favori des Iraniens pendant ces 4 ans qu'il a été à la présidence des États-Unis parce qu'il a remis les ayatollahs à leur place.
Donc vous voulez dire que les jeunes Iraniens vont regretter Donald Trump ?
Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont fait pendant les élections présidentielles aux États-Unis pour convaincre les Irano-Américains qui ont le droit de vote pour qu'ils votent Donald Trump. Alors que les Iraniens qui étaient aux États-Unis, ils n'étaient pas pro-Trump. Par contre, les jeunes Iraniens, depuis Téhéran, depuis les villes iraniennes, ils étaient pro-Trump et ils voulaient que leurs compatriotes votent pour Trump parce qu'ils pensaient qu'il n'y a que Trump qui est capable de faire chuter la République islamique.
Manasir Ali, sur le plan des droits humains, l'année 2020 n'a pas été très bonne non plus, avec de nombreuses arrestations de figures emblématiques de l'opposition et aussi des exécutions sommaires.
Aucune année de la République islamique n'a jamais été bonne. Aucune année. Depuis 42 ans, les droits de l'homme sont systématiquement violés en Iran et les droits fondamentaux des individus sont systématiquement bafoués en Iran. Donc, ce n'est pas une année exceptionnelle. Par contre, il y a une différence. Je reconnais, Éric Bataillon, de ce que vous avez dit. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand la République islamique exécutait les jeunes, les adolescents en masse, personne ne le savait. Vous savez pourquoi ? Parce que les informations ne sortaient pas du pays. Aujourd'hui, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, une seule exécution fait des échos. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Et ça, c'est la différence. Sinon, la République islamique est égale à elle-même. Ce qui a changé, c'est que les jeunes Iraniens, aujourd'hui, ont accès aux réseaux sociaux et ils peuvent s'exprimer et ils donnent écho aux injustices qu'ils vivent dans le quotidien. C'est pourquoi j'ai consacré un livre qui va sortir fin avril sur les réseaux sociaux et sur leur place en Iran et comment les jeunes Iraniens utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour transmettre leur message au monde libre.
Des réseaux sociaux que les autorités essayent régulièrement de bloquer. On l'a vu dans l'année 2019 où effectivement Facebook, par exemple, n'était plus accessible depuis l'intérieur.
Et oui, tout à fait, vous avez raison. Mais en contrepartie, les jeunes Iraniens sont devenus des geeks. Ils sont devenus tellement forts en informatique qu'ils inventent chaque jour des manières pour passer, pour pénétrer à l'intérieur du censure et de le dépasser, de la surmonter et pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Et ainsi, ils sont 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux.
Manasir Ali, mi-décembre, l'ONU a adopté une résolution parrainée par le Canada dénonçant les violations des droits de la personne en Iran. Cela peut-il avoir une incidence sur le comportement de l'Iran en 2021 ?
C'est toujours la bienvenue. Vous voyez, ce sont des mesures extrêmement importantes. Il faut que la communauté internationale continue sa pression parce qu'on est quand même au 21e siècle. Et au 21e siècle, personne n'a le droit de se comporter de la fête de ces... Vous savez, quand les dirigeants iraniens tuent un ressortissant étranger, toute la communauté internationale se lève contre la République. Mais quand ils tuent leurs propres ressortissants, il n'y a aucune loi pour protéger les ressortissants iraniens contre leurs dirigeants. Donc, je pense qu'on est en face d'un lacune très importante à l'intérieur du droit international, c'est le droit de la protection des ressortissants d'un pays contre leurs dirigeants. Toutes ces mesures dont vous avez parlé, Éric Bataillon, ce sont extrêmement efficaces. Il faut continuer la pression sur la République islamique.
Merci, Marnaz Chirali.
Merci, Éric Bataillon.
Sociologue politique, enseignante à Sciences Po Paris et autrice d'un livre qui va sortir très prochainement, au mois d'avril. Vous avez le titre, peut-être ?
Fenêtre sur l'Iran.
Fenêtre sur l'Iran, donc consacrée aux réseaux sociaux. Merci, Marnaz Chirali.
Merci à vous.
Le débat africain. Qui succédera à Ahmad Ahmad à la tête de la CAF?